Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Inter.
Bonjour, c'est Gisèle de Montargis. Oui, je réagis à l'émission sur la post-croissance. Le thème, effectivement, doit tenir compte de la population mondiale, pas que de nous, les nantis, les capitalistes, colonialistes, néocolonialistes, qui avons toujours des états d'âme sur le surplus, sur des choses de ce genre. Qu'est-ce qu'on va acheter? Qu'est-ce qu'on va faire? Nanani, on n'a pas d'argent maintenant. Mais il y a la majorité du monde qui est comme ça et qui, en plus, n'a rien à manger et victime de tout ce que nous, on a fait pour avoir une satiété même plus qu'énorme et les autres crèvent de faim pour nous produire des choses pour nous. On leur détruit le monde à eux, pour nous, tout le temps, pour avoir plus, 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 plus. Je sais pas, il faut arrêter d'être juste égocentré sur l'Europe, la France, Paris. Merci, au revoir.
Bonjour les terriens au carré, Greg de Suisse ici. Si on mobilisait les joueurs de foot pour sensibiliser rapidement sur le changement climatique, imagine si Griezmann communiquait régulièrement sur Instagram pour parler de cette urgence. Alors j'appelais à l'action, à toi là, qui connais un joueur pro ou semi-pro, parle-lui de la catastrophe qui est en train de se jouer, ou organise une fresque du climat dans son club par exemple. Je suis certain que tu connais un joueur pro sensible à notre cause à tous, tel que Rémi Deschamps du FC Nantes. Je suis convaincu que les footeux peuvent avoir un rôle plus positif qu'on ne le pense. Merci à tous.
Alors, c'était Liane de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Alors, dans le sud-ouest, il paraît qu'un projet écocide, coûteux et imposé avance. Vous le savez, c'est le projet de ligne à grande vitesse du GPSO du Grand Sud-Ouest pour 14 à 20 milliards estimés. Pas besoin d'une ligne nouvelle qui ne fera que traverser nos territoires ruraux en les détruisant. Ne croyez pas ce que vous disent les promoteurs du projet, nous sommes de plus en plus nombreux à résister. Et ce vendredi 29 mars, à Tagmarsan, les Amis de la Terre et le CAD tiennent une réunion publique à Mont-de-Marsan. On espère que vous viendrez nombreux. On va démystifier l'imaginaire des LGV, des infrastructures de transport, avec Julien Milanesi qui... Vous vous en souvenez peut-être, est le réalisateur du film « L'intérêt général et moi ». La LGV, c'est pas fait.
Bonjour Catherine, qu'est-ce que c'est que ce titre de journée spéciale « Smartphone, tout synchro ». Il y a des gens qui ont choisi de ne pas devenir des crétins digitaux qui n'ont pas de smartphone. Donc non, on n'est pas tout synchro. J'embrasse les résistants.
Merci Catherine, chère résistante du smartphone et les crétins digitaux, vous salue. À propos de téléphone, je voudrais lancer un petit appel à toutes celles et ceux qui nous laissent des messages depuis leur voiture tout en conduisant. Attention, parce que non seulement c'est dangereux de passer un coup de fil au volant, mais la plupart du temps, vos appels sont indiffusables en raison de la piètre qualité sonore, ce qui est dommage parce qu'il y a souvent de chouettes messages qu'on ne peut pas diffuser pour cette raison. Donc pensez-y avant de nous appeler au 01 56 40 45 45. Merci beaucoup et soyez prudents sur la route. La journée spéciale consacrée à notre addiction au smartphone se poursuit donc avec une terre au carré consacrée aux impacts sociaux, écologiques et sanitaires de nos téléphones mobiles. L'épidémie de smartphones a entraîné avec elle différentes conséquences pour l'homo numericus que nous sommes, avec des dégâts déjà bien visibles, par exemple sur le langage, la concentration ou encore le sommeil. Dans le domaine de l'environnement, les quantités de matières premières pour la fabrication, l'empreinte énergétique et la fin de vie de nos téléphones représentent également différentes sources de pollution. Le smartphone responsable existe-t-il? C'est ce que nous allons voir et demander à nos invités. Avec nous en studio, Yves-Marie, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes le cofondateur et délégué général de l'association Lève les yeux, qui milite pour la reconquête de l'attention. Et vous publiez « Numérique, on arrête tout et on réfléchit ». C'est aux éditions de la rue de l'Échiquier avec l'association Agir pour l'environnement. Et puis en duplex de France Bleu Isère à Grenoble se trouve Françoise Berthoux. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche en informatique au CNRS, au sein du laboratoire GRICAD, qui travaille sur le calcul intensif, le traitement, la diffusion et la préservation des données scientifiques. Et vous avez créé le groupe Eco-Info pour une informatique éco-responsable. On fait donc ensemble dans un instant le lien entre nos téléphones, la santé et l'environnement. Puis bien sûr, vous répondrez aux messages qui arrivent dès maintenant sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Passage au vert à 14h30.
Et les écrans encore pour nos animaux de compagnie. Figurez-vous que le marché est en plein boom. Et oui. Et je vous parle d'une étude sur les perroquets qui sont assez fans.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati avec David Diboué-Black à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il y avait un couple à côté de moi dans le TGV. Ils ont fait Paris, Avignon. Ils ne se sont pas adressés la parole. Ils n'ont pas vu un village qu'ils ont traversé. Ils n'ont pas vu un animal qui courait dans la prairie. Mais là, les mecs, ils zappaient comme ça. Ils étaient sur Instagram, mais ils ne regardaient que des conneries, quoi. Je me dis, mais c'est quoi qu'il est en train de devenir le cerveau de l'homme, quoi. Et le pire, c'est que eux, peut-être qu'ils ont 30 ans. Ils ont vécu un peu autre chose. Mais les minots, dans le berceau, il y en a qui ont un téléphone. Et ils croient que c'est des génies parce qu'ils arrivent à se servir de son téléphone. Mais les génies, ils ont créé un truc pour nous abrutir et nous rendre dépendants très facilement. Et il y a la drogue, il y a l'alcool, et il y a les téléphones aujourd'hui et les réseaux sociaux. Voilà, je passe pour un vieux con, mais je m'en tape.
Voilà, et c'est Eric Cantona, en septembre dernier sur France Bleu, smartphone, les impacts sur la santé et l'environnement. On poursuit donc ensemble cette journée spéciale France Inter avec nos invités Yves-Marie et Françoise Berthoud. Yves-Marie, un mot d'abord sur votre association. Lève les yeux, vous vous intéressez à quoi alors exactement?
Eh bien, lève les yeux, on fait de la sensibilisation aux effets de la surexposition aux écrans auprès des enfants, auprès des adolescents et aussi auprès des parents. On est basé à Marseille, mais on intervient un petit peu partout en France.
Ouais, vous essayez d'aider les parents désemparés, par exemple?
Effectivement, on sent beaucoup d'impuissance du côté de beaucoup de parents face à une très forte dépendance aux écrans, et en particulier aux smartphones. Et donc on essaye un petit peu de donner des clés de compréhension et d'encourager à davantage de déconnexion.
Oui, c'est quand même ça, in fine, ce que vous essayez de viser, c'est qu'on s'éloigne un petit peu de nos smartphones.
C'est ça, en fait. C'est vrai qu'on entend beaucoup qu'il faut apprendre à bien utiliser les écrans, et donc c'est évident, hein, le mieux possible, mais on essaye aussi d'expliquer que derrière, il y a tellement de moyens qui sont mis pour nous rendre accros, justement, à ces écrans, avec une industrie très, très, très puissante derrière, que la meilleure solution, ça reste quand même de déconnecter, de réduire son temps, de s'éloigner de ces écrans.
Françoise Berthoud, vous partagez ce constat, beaucoup de sollicitations et évidemment beaucoup de difficultés aussi à nous défaire de ces outils numériques.
Oui, qui ont en plus l'immense avantage de tenir dans les poches. Mmh. Donc on peut les trimballer absolument partout et à avoir une batterie suffisamment puissante pour rester réveillé toute la journée. Donc ces objets technologiques offrent toutes les potentiels pour nous maintenir sous emprise toute la journée et toute la nuit.
C'est vrai. Yves-Marie, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même une demande sociétale en ce moment autour de la déconnexion, ou est-ce que ça reste très marginal eu égard à la jeunesse aussi des smartphones eux-mêmes, hein?
Bah, effectivement, on sent vraiment que c'est en train d'émerger, la prise de conscience et la demande sur le terrain. Nous, on le constate, puisque quand on s'est créé, beaucoup de gens nous demandaient un petit peu ce qu'on faisait, ne comprenaient pas très bien l'objet social de notre association. Mmh. Et aujourd'hui, on sent qu'on rencontre vraiment un vrai écho dans la société. On est beaucoup, beaucoup sollicité, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Et donc oui, tout à fait.
Donc c'est intéressant de voir qu'on s'interroge, hein, au moins sur la façon dont nous utilisons ces outils. Françoise Berthoud, ça fait de nombreuses années maintenant, hein, que vous parlez, vous, des impacts du numérique sur l'environnement. Même chose, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience sur le sujet, ou ça reste encore très éloigné?
Non, en réalité, il y a beaucoup de changements dans la société aujourd'hui. En général, quand on pose la question, même auprès des étudiants, des jeunes, ils ont conscience qu'il y a un problème environnemental avec les smartphones et le numérique en général. Mmh. Même s'ils savent pas trop ou comment ils pourraient changer, ils pourraient opérer des transformations. Mais il y a une conscience. elle est pas forcément toujours elle correspond pas toujours à la réalité, mais il y a quand même des changements.
Allez, on rentre dans le cœur du sujet, Yves-Marie, puisqu'on va parler des impacts donc sur la santé et sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'on passe énormément d'heures sur nos smartphones, ça dépasse même les 10 heures, vous donnez les chiffres pour les 15-17 ans, c'est quasiment 10 heures par jour. Alors téléphone et écran, il faut tout inclure, mais c'est beaucoup de temps sur les téléphones, parce que c'est majoritairement en tout cas sur nos téléphones qu'on va aujourd'hui sur Internet. Que nous dit la littérature scientifique sur les effets sanitaires des smartphones? Est-ce qu'on a des choses à soumettre?
Alors, il y a beaucoup d'études qui sortent sur ces sujets. Alors, effectivement, parfois, ça mélange un petit peu les écrans. Donc, c'est le temps d'écran qui est mesuré et les impacts des écrans. Parfois, ils affinent en fonction des contenus, parfois pas. Donc, il y a pléthore. Nous, on se base pas mal sur les travaux de Michel Desmurget, qui est un neuroscientifique français de référence et surtout indépendant de tout conflit d'intérêts, ce qui est une précision importante. Et donc, il a publié un premier livre, qui est donc La fabrique du crétin digital. Et là, le deuxième, faites-les lire, où il se base vraiment sur des milliers d'études. Il y a d'autres travaux, le livre coordonné par Servan Mouton aussi, qui avec plusieurs chercheurs, dont Françoise Berthoud, plusieurs chercheurs et scientifiques qui collectent les études. Donc sur les écrans pour les enfants, il y a des impacts vraiment avérés en termes de concentration, donc des impacts cognitifs avec la capacité à mémoriser et donc la capacité à apprendre. Et donc en chaîne, on voit bien les impacts que ça peut avoir sur l'éducation. Tout ça, c'est bien mesuré. Je pense qu'on peut aussi évoquer les impacts physiques sur donc la sédentarité. Mathématiquement, tout ce temps d'écran, c'est du temps qui est grappillé sur de l'activité physique, sur d'autres formes d'activité. Et donc, plus de sédentarité, plus d'obésité, les problèmes en cascade avec ça. Bien sûr, les problèmes sur le sommeil qui est donc le socle de la santé.
Et ça, on le voit vraiment dans les études, sur la moyenne de sommeil qui a drastiquement baissé ces dernières années. On a perdu 1h30, je crois, de sommeil, ce qui est énorme. Physiologiquement parlant, ça représente beaucoup.
C'est ça. On a perdu à peu près 1h30 de sommeil sur les 50 dernières années, alors que le temps de travail n'a cessé de baisser. Donc on n'a jamais eu autant de temps disponible. Et en même temps, on n'a jamais eu autant cette sensation de manquer de temps. C'est tout le paradoxe de la modernité montré par Hartmut Rosa, notamment.
Donc, toute une palette d'effets sur notre santé, à la fois physique et psychologique. Vous parlez donc beaucoup, en tout cas dans votre livre, de la nocivité sur le développement neurologique des enfants qui, dès le plus jeune âge, aujourd'hui, sont soumis à ces téléphones. Pour le moment, en tous les cas, l'effet néfaste des ondes électromagnétiques des smartphones sur le corps humain n'a pas encore été directement prouvé, mais certains médecins, on va l'entendre, comme le docteur Marc Arazi, se montrent inquiets et soupçonnent même des risques de cancer.
Sur 30 ans, on a vu une multiplication par 4 et plus des cancers du cerveau les plus graves, ce sont des glioblastomes, qui sont des tumeurs du cerveau incurables, avec des moyennes de durée de vie de l'ordre de 12 à 15 mois. Là, on est sur le cerveau, mais je vais prendre par exemple l'exemple du téléphone portable porté à la poche. Plein d'études scientifiques ont montré, par exemple, chez les hommes, que cet effet chauffant, elle a un effet catastrophique pour les spermatozoïdes, avec une perte de motilité et une perte de fertilité.
L'année dernière, l'iPhone 12 avait été retiré temporairement du marché pour non-conformité de ces appareils à la réglementation européenne sur ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique. Yves-Marie, vous nous expliquez en un mot de quoi il s'agit?
Alors bon, je suis pas expert de la question, mais je crois que c'est notre capacité à supporter ces ondes. Et donc en fait, il faut qu'il y ait une certaine distance physique ou que ces ondes soient... C'est le rapport entre la distance physique
et la
puissance de ces ondes. Et donc, effectivement, il y a des normes qui sont fixées. Je pense que ce que dénoncent beaucoup d'associations spécialisées sur cette question, c'est le fait que ces normes ne soient pas au niveau et que soient... Et que dans les comités de décision, il y a souvent aussi de l'influence de l'industrie numérique. Donc, on a un débat public qui n'est pas parfaitement éclairé.
Mais il y a des normes européennes, en tout cas. Et là, l'iPhone 12, l'année dernière, ne l'avait pas respecté sur donc cette quantité d'énergie transportée par les ondes qui sont absorbées par le corps humain. C'est une moyenne, en tout cas, de 4 watts par kilo à l'échelle européenne. Et là, on était à 5,7 watts par kilo sur ces téléphones. On se retrouve dans un instant. On en discute, bien sûr, avec nos auditrices et nos auditeurs. Les effets à la fois sur la santé et sur l'environnement, c'est le dossier smartphone de la Terre au carré.
tes sourires qui me font danser tous les soirs. Comme j'aime les jours qui tirent vers de folles nuits qui se couchent tard. Toi tu danses comme tu respires, tu ne vas jamais me laisser m'asseoir. Tu sais travestir le pire en un simple bonheur sans histoire. Tu as l'air de savoir faire, tout semble si facile pour toi. Mon cœur sert, oui, mais j'en foire. Mais toi, tu danses toujours au pas. Oh, toi, tu gardes, oui, tu gardes le sourire même sous le brouillard. Mais ce soir, je ne te vois plus. Je danse seul et la piste est noire. Sur quel pied tu danses, et s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Dois-je appeler les urgences pour rejoindre ton cœur, danser dans l'ambulance? Sur quel pied tu danses, et s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Es-tu sous surveillance quand ton cœur n'est pas sur la piste de danse? J'ai fait le 911, demandé à parler à ta bonne étoile. On m'indiquait le danse son dernier bal. Ce soir on voit l'adresse, c'est moi qui te soigne. Il est minuit, minuit, pas midi, midi. Oh baby, baby, je préfère gérer la nuit. Sur moi qu'on dansera même si tu die, die, die. Sur quel pied tu danses, dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Dois-je appeler les urgences pour rejoindre ton cœur, danser dans l'ambulance? Sur quel pied tu danses, dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Es-tu sous surveillance quand ton cœur n'est pas sur la piste de danse? Je t'emmènerai danser quelque part, on hurlera à mort sur les boulevards. Suffira d'allumer nos gyrophares. Avant c'était toi qui dansais l'ennui. Ce soir je peux tout porter, toi et tes poésies. J'aurai celui qui guide, cette nuit c'est moi qui drive. Jusqu'au petit matin, puis on se dira bye, bye, bye. Juste une dernière danse. Sur quel pied tu danses, dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Dois-je appeler les urgences pour rejoindre ton cœur, danser dans l'ambulance? Sur quel pied tu danses, dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Es-tu sous surveillance quand ton cœur n'est pas sur la piste de danse?
Et c'était Eddie de Préto sur France Inter.
La Terre au carré. Journée spéciale. Smartphone, tous accros.
Envoyer un mail, publier ses photos sur les réseaux, regarder une vidéo sur le web. Des habitudes devenues quotidiennes qui n'ont pourtant rien d'anodin, car le cloud n'est pas un nuage magique. Derrière, il y a des ordinateurs, des câbles, des serveurs qui génèrent une pollution invisible, mais pas sans conséquences.
France 3, Normandie en janvier dernier. Françoise Berthoud, ingénieure en informatique au CNRS, et Yves-Marie de l'association Lève les yeux, nos invités pour parler des impacts des smartphones. On a évoqué donc la santé, maintenant l'environnement. Françoise Berthoud, lorsqu'on veut comprendre de quelle façon nos téléphones portables agissent aussi sur la nature, sur l'environnement, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte exactement?
Eh bien... Dans un premier temps, il faut prendre en compte la complexité de ces objets. Ce sont quand même ces smartphones, des objets assez extraordinaires qui contiennent une quarantaine, une cinquantaine de métaux différents. Et ces métaux, il faut aller les récupérer parce que malheureusement, le recyclage est insuffisant, largement insuffisant. Donc, on va aller les extraire de la croûte terrestre. Et l'extraction des métaux de la croûte terrestre pose tout un tas de problèmes environnementaux, qui sont des questions autour de l'énergie nécessaire pour extraire les métaux, et puis de la consommation d'eau qu'on va utiliser pour les procédés métallurgiques, mais aussi pour, après l'extraction, mettre en bain, comme dans des espèces de lacs, les poussières fines qui sont issues de toutes ces manipulations pour extraire les métaux. Et puis le problème de l'eau, vous voyez, ça va être que malheureusement toute cette eau extrêmement polluée, elle va pas rester sagement derrière sa digue. Il y en a évidemment qui restent sagement derrière sa digue, mais il y a des centaines de digues qui cassent et du coup avec des eaux extrêmement polluées qui se répandent dans les terrains alentours, dans les nappes phréatiques, etc., et qui polluent de façon éternelle. Hein, sont des polluants éternels qu'on retrouve là-dedans, détruisant évidemment la biodiversité et affectant la santé des humains qui habitent par là.
Donc l'extraction des matières premières, la question de l'eau qui est absolument centrale, et puis d'autres critères aussi à prendre en compte, parce que vous parlez de tout le cycle de vie finalement du smartphone. Hein.
Oui, mais je voudrais insister encore sur un point qui est absolument essentiel et pour moi un des trucs les plus difficiles à accepter s'agissant de l'extraction des métaux. C'est ce qui se passe dans certains pays comme par exemple la République démocratique du Congo, où là on a une pression énorme pour avoir certains métaux qui sont utilisés justement dans les smartphones comme le tantal ou le coltan ou le cobalt. Et qui sont extraits dans une région du monde où la situation civile n'est pas stable. Et c'est connu hein, maintenant que la pression sur ces métaux et la vente de ces métaux a servi et sert encore à alimenter des conflits civils, des conflits extrêmement violents. Et on dénombre quand même des millions de morts, des millions de déplacés. Et puis, quelque chose que je dis maintenant, que je ne disais pas au début quand je parlais des impacts environnementaux du numérique, mais je trouve que c'est tellement grave qu'on ne peut plus fermer les yeux devant ce qui se passe, puisque par exemple, ce conflit-là, en République démocratique du Congo, eh ben, il a entraîné, et il continue d'entraîner, des dizaines de milliers de viols. Des viols de bébés, des viols de femmes, des viols de personnes âgées, parce que le viol est utilisé comme arme de guerre.
Donc vous dites, derrière nos téléphones, il y a aussi tout ça. Et il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a effectivement des effets directs sur l'environnement, mais aussi sur des êtres humains.
Hein. Absolument, absolument. Donc là, on parle de mort directe liée à l'extraction des métaux. Ça, c'est au moment de la fabrication. Et puis, il y a tout le reste du cycle de vie, il y a l'usage, où là encore, on va utiliser de l'eau, on va utiliser pour les data centers, on va utiliser de l'eau pour la fabrication des composants eux-mêmes. Et puis après, il y a la fin de vie, où là encore, tout n'est pas rutilant, et loin de là, hein, puisque le taux de smartphone qui est recyclé, en France, par exemple, il est assez faible. En fait, il est moins de 10%.
Moins de 10%.
Moins de 10%, oui. Et sur les émissions de gaz à effet de serre, est-ce que ça aussi, il faut le prendre en compte? Est-ce que c'est une empreinte importante dans le smartphone ou pas?
Alors, on ne connaît pas les émissions de gaz à effet de serre liées spécifiquement au smartphone dans le numérique. Mais ce qu'on sait, c'est que les émissions de gaz à effet de serre du numérique, c'est de l'ordre de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Mais là, on parle que des effets des émissions de gaz à effet de serre directes et pas des effets indirects du numérique.
Françoise, une autre Françoise nous écrit sur franceinter.fr, ne pas oublier que, par exemple, l'État nous impose l'ordinateur ou le smartphone quand il s'agit d'impôts, d'autres démarches, les demandes de carte d'identité, de passeport, etc. Les billets aussi de train, par exemple, disparaissent au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a des usages aujourd'hui, Yves-Marie, si on n'a pas de smartphone, et d'ailleurs il y a plein de gens qui s'en plaignent, on ne peut pas faire les choses. Comment est-ce qu'on peut faire face à ça?
Bah oui, vous avez tout à fait raison de le souligner, en fait, et c'est ce que j'essaye un petit peu de montrer dans le livre. Il y a vraiment des forces motrices profondes qui nous poussent à utiliser le numérique.
C'est presque excluant quand on n'a pas de smartphone, en fait. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire du tout.
Tout à fait, tout à fait. Il y a la poussée industrielle, mais il y a aussi, du côté de l'État, un encouragement à numériser toujours plus, parce qu'effectivement, le numérique contribue à une plus grande efficacité, permet d'aller plus vite. Et donc, dans cette logique économique de croissance, qui est donc au cœur du, à mon avis, au cœur du problème, hein, la technologie numérique contribue à cette croissance, à cette accélération. Et donc, on voit bien qu'il y a comme ça une sorte de rouleau compresseur qui avance. Et donc, il y a un grand chantier devant nous si on veut vraiment agir à ce sujet.
Les banques aussi, par exemple, il faut valider par un SMS ou par ça, c'est super compliqué aussi.
Bien sûr, non, c'est sûr qu'il y a tout un, c'est dans tous les champs de l'existence sont en train d'être numérisés en réalité.
Françoise Berthoud, justement sur cette numérisation du monde aujourd'hui, qui va exploser encore plus dans les prochaines années, on ne reviendra pas en arrière, c'est une évidence. Qu'est-ce que vous en pensez?
On ne reviendra pas en arrière, gentiment, volontairement, etc. peut-être, mais à un moment donné, on n'aura pas tellement le choix. Et ce qui serait bien, c'est qu'on commence à reculer un petit peu, à revenir en arrière, en tout cas, à pas continuer à dégrader notre environnement et puis tout le reste comme on le fait. Vous parliez tout à l'heure de à quel point le monde se numérise, nos sociétés occidentales en tout cas, hein, parce qu'il y a des endroits du monde où on n'en est pas là, fort heureusement. Mais il faut savoir que même en France, par exemple, il y a 20% de la population des plus que 12 ans qui ne disposent pas d'un smartphone. Donc en fait, de fait, en proposant autant de services qui s'appuient sur l'usage du smartphone, on exclut 20% de la population.
Ouais, je ne sais pas si vous entendiez notre auditrice tout à l'heure dans le répondeur hein, qui disait « Moi, je suis une résistante justement du smartphone, il ne faut pas nous oublier parce qu'il y a encore justement des gens qui résistent. »
Mais absolument, absolument. Et du coup, ça amène à la question générale de, finalement, ce numérique, cette numérisation du monde, elle est poussée par qui, en fait? Qu'est-ce qui se passe? De quelle façon est-ce que ces décisions sont prises? En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas tellement de démocratie sur la façon dont c'est fait. Et est-ce que ce numérique qui est poussé aujourd'hui, il préserve l'intérêt général? Franchement, moi, mon impression, c'est que non. C'est que essentiellement le numérique qui est poussé aujourd'hui, il est au service, comme disait Yves-Marie d'ailleurs, hein, des gains financiers au travers de l'augmentation de la performance. Il est au service d'une certaine concentration des pouvoirs. Et puis, on peut aussi citer le problème de la surveillance de masse qui est
avec les données. Hein.
Avec les données. Les données qui explosent. Rendez-vous compte que aujourd'hui, chaque humain en moyenne génère 1 gigaoctet de données par heure.
Et donc il y a de quoi faire. De bonnes cartes d'identité individuelle. Camille, un message.
Un petit témoignage, Martine. Je suis dans le bus pour 45 minutes de trajet. J'ai mon téléphone sur les genoux, les écouteurs dans les oreilles et je peux donc ainsi écouter votre émission tout en admirant le paysage rural que je traverse.
On accepte. Salue. Combien de personnes possèdent un téléphone portable dans le monde, Yves-Marie? C'est quoi la proportion aujourd'hui?
Alors, il me semble
vous
que...
dites presque 70%, c'est ça à peu
voilà,
près
c'est ça. Après, ça dépend des pays. C'est que... En France, on est à 87%, il me semble. Il y a des pays où ça va plus bas, mais il y a effectivement un taux d'équipement qui est très très élevé.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres messages pour vous, d'autres questions sur les aspects sanitaires et écologiques, évidemment, des smartphones.
France Inter, la Terre au carré.
Et c'est l'heure de passer au vert, Camille Cronier.
Et alors, on est un peu tous des pigeons, donc, quand il s'agit de se faire alpaguer par les écrans. Je vous parle d'autres oiseaux, moi, de perroquets, avec une étude parue la semaine dernière et menée par Rebecca Kleinberger, professeure à l'université américaine Northeastern, l'université du Nord-Est, à Boston, où elle dirige le laboratoire spécialisé dans les interactions animal-machine. Oui, ça existe, parce que devinez quoi?
Il y a un énorme marché de la technologie pour les animaux de compagnie, qui connaît vraiment un essor aujourd'hui avec toutes sortes de nouveaux produits qui promettent d'améliorer le bien-être animal. Mais il y a très peu de données et de recherches qui sont faites pour étayer ces affirmations.
Et oui, par ici, les tablettes et donc les écrans également pour nos animaux de compagnie. On n'arrête pas le progrès, n'est-ce pas?
Je ne promeux absolument pas la possession d'animaux de captivité, ni le mettre des animaux dans des zoos, mais les animaux qui existent dans des zoos en captivité aujourd'hui, les animaux de laboratoire, je pense qu'il y a énormément qu'on peut faire en tant qu'humain pour améliorer leurs conditions de vie. Et les technologies ont peut-être un rôle à jouer. Parce que si on part d'un perroquet qui, de toute façon, passe sa journée seul dans une cage, dans un enclos, et qui n'a pas d'interaction sociale, qui n'a pas d'interaction avec d'autres perroquets, et qui a très peu de temps avec ses propres humains, peut-être qu'amener un écran peut aider.
Et comme le marché existe donc, comment adapter au mieux ces technologies pensées à la base pour les humains pour l'usage animal, leur physionomie et leurs besoins particuliers? Question au cœur des recherches de la scientifique qui ne travaille pour aucune entreprise, je le précise. Son équipe a donc mené l'étude avec 20 perroquets d'espèces et tailles différentes, chacun chez soi, avec une tablette et un jeu créé spécialement pour eux, des ballons rouges de différentes tailles à faire éclater quand on touche l'écran. Et ils se sont rendus compte, les chercheurs, d'une grande différence avec nous, par exemple.
On avait beaucoup de perroquets qui, au lieu de toucher l'écran une fois, le toucher plein de fois. C'est une sorte de tape très très rapide. Donc ça, on pense que ça vient des systèmes d'évolution de leur langue qui a ces mouvements de saccade très rapides qui leur permettent de casser des noix ou de trouver des petits insectes dans leur nourriture. Mais quand ils utilisent ça sur des tablettes, ça entraîne des erreurs de touche involontaires et ça amène de la frustration.
Ils ont donc trouvé un système qui permet de prendre ça en compte pour que les perroquets soient pas trop vénères. Ils ont aussi déterminé les distances optimales, la taille des boutons, la taille des cibles, les angles, et l'expérience a plu puisque 17 perroquets sur les 20 étaient à fond. Les trois autres ont lâché l'affaire avec un temps limité pour les amateurs, hein, 3 sessions de 5-10 minutes maximum par jour, histoire de ne pas les rendre accros. D'ailleurs, est-ce que ça pourrait exister l'addiction aux écrans chez les perroquets ?
Je ne peux pas dire oui ou non à cette question, malheureusement. En tant que scientifique, on n'a pas assez de données.
En tout cas, une autre expérience qu'elle avait faite l'an dernier montrait que les perroquets avaient l'air bien accro aussi aux appels vidéo. Oui, oui.
L'idée, c'était pas seulement de faire des FaceTime, mais c'était de leur donner la possibilité de s'appeler. C'était pas seulement nous, on allume l'ordinateur, on allume la tablette et on les laisse dans leurs appels. Non, c'était leur montrer qu'eux peuvent contrôler, peuvent commencer l'appel quand ils veulent, peuvent arrêter l'appel quand ils veulent, peuvent choisir qui ils veulent appeler.
Et devinez quoi ? Ça a cartonné. Ils avaient une clochette pour signaler qu'on leur apporte une tablette. Puis sur la tablette, des photos d'autres perroquets. Et ils choisissaient donc lequel ils appelaient.
On a vu vraiment des dynamiques se créer. Certains perroquets, personne ne voulait jamais appeler. Ils étaient trop agressifs. Ou d'autres perroquets que tout le monde voulait appeler. Et certains qui sont vraiment devenus très... Bon, on peut dire le mot amis, c'est pas très scientifique, mais qui ont créé des affinités et qui voulaient toujours s'appeler entre eux.
Avec des comportements très différents.
Certains chantaient. Certains faisaient des vocalisations. Certains disaient des hello. Certains apprenaient le nom de l'autre. Mais on a eu beaucoup aussi de comportements qui étaient plutôt silencieux. Certains qui s'approchaient de l'écran, qui s'endormaient tout contre l'écran, d'autres qui imitaient, d'autres qui amenaient leurs jouets à l'écran.
En sachant derrière tout ça que l'idée n'est pas de pouvoir laisser ces perroquets tout seuls avec leur écran pour pas s'en occuper, mais bien d'augmenter aussi les interactions avec les humains. Chaque exercice est pensé pour. Et alors, à celles et ceux qui seraient scandalisés de l'utilisation d'écran avec des animaux, figurez-vous que ça ne date pas d'hier. Écoutez bien ça.
Et je vais vous dire, une des plus vieilles recherches sur ce sujet date de plus de 80 ans dans le domaine militaire. Les gens ont entraîné des pigeons à toucher des écrans tactiles pour suivre un missile. Et on mettait les pigeons dans les missiles qui leur permettaient de diriger eux-mêmes les missiles vers leur direction.
Incroyable. Les pigeons pilotent de missiles et kamikazes forcés. Hein, ça s'appelait le Pigeon Project. Pas sûr que là, c'était vraiment pour le meilleur, mais plutôt pour le pire.
Merci beaucoup, Camille Cronier. C'est à réécouter sur franceinter.fr.
Yves-Marie, je vous ai vu quelque peu affligée quand vous avez juste entendu, par exemple, que le marché donc des tablettes, des écrans pour animaux de compagnie était en plein boom.
Bah oui, ça m'amuse pas mal. J'avoue que je l'avais pas vu venir, à vrai dire.
Ça vous amuse ou ça vous afflige?
Bon, sans doute un peu des deux. C'est-à-dire que on a une situation écologique que vous connaissez bien dans cette émission, qui est relativement catastrophique. Et c'est sûr qu'imaginer que l'investissement scientifique va dans le fait de mettre des écrans sur les animaux, enfin devant des animaux, ça.
Enfin là, l'investissement scientifique, il est pour tant qu'à faire, vu que ça existe, autant optimiser ces écrans pour qu'ils ne soient pas trop nuisibles. Le marché, c'est pas les scientifiques qui l'ont lancé.
Oui, non, mais alors après, enfin, il faudrait regarder dans le détail et on peut débattre toujours. Il y a toujours aussi potentiellement des applications positives, mais l'idée qu'il y ait un marché, en tout cas, pour des écrans pour les animaux, ouais, c'est un petit côté affligeant, effectivement.
Françoise Berthoux, j'ai pas vu votre tête parce que vous êtes en duplex de Grenoble, mais qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ah ben moi, je suis complètement affligée. En fait, je connaissais déjà l'existence d'outils de ce type pour les animaux parce que c'est un exemple que je donne souvent aux étudiants à qui je donne des cours. Quand je veux montrer où est-ce qu'on va avec des objets connectés, je leur montre ce fameux téléphone pour chien qui permet aux chiens et aux maîtres de communiquer quand ils sont pas dans la même pièce. Moi, si vous voulez, au-delà de la problématique d'impact environnementaux que ça continue de générer,
ben oui, on en parlait.
Ce que je me dis, c'est que c'est tellement triste que chez nous, on n'arrive plus à faire des innovations sans ces technologies, qu'on n'arrive plus à imaginer d'autres façons d'étudier les perroquets ou de faire en sorte que ces animaux aient du bien-être sans ces technologies. Je le trouve vraiment affligeant.
Bon, il y a quand même des éthologues qui font des travaux sans tablette, hein, et qui observent directement les animaux quand même.
Mais... Ah mais oui, heureusement.
Bon, on va revenir aux humains parce que déjà ils nous occupent pas mal avec les smartphones Homo numericus. C'est le dossier de la Terre au carré pour voir notre lien et surtout les impacts de nos smartphones.
Your mouth floats above my bed at night. My own, a private moon. Just because the mind can make up whatever it wants, doesn't mean that it'll never come true. Won't ever happen. Just as she can. Please, could I change that? Is that the right thing to do? Oh, I just don't know. I just don't know.
Björk et Rosalia sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Téléphone éteint dès la grille de l'école. Comme dans ce collège londonien, l'Angleterre invite officiellement tous les établissements à bannir le portable. Si un téléphone est vu ou entendu, il est automatiquement confisqué.
Les preuves sont raisonnables. Certains nous disent simplement « éteins ton téléphone et range-le ».
Si on est attrapé sur notre téléphone à l'école, il doit y avoir des conséquences.
Même en récréation, le téléphone nous distrait. Il nous empêche d'apprendre correctement le reste de la journée.
France 2 en février dernier, comment déconnecter l'impact des smartphones sur la santé et l'environnement pour cette journée spéciale avec nos invités Françoise Berthoux, ingénieure en informatique au CNRS, et Yves-Marie de l'association Lève les yeux et auteur de ce livre numérique. On arrête tout et on réfléchit rue de l'Échiquier. Yves-Marie, les effets de la surexposition aux écrans, notamment des enfants, vous dites, vous écrivez que c'est encore largement sous-estimé et vous considérez même que le smartphone est une bombe à fragmentation qui transforme peu à peu le cerveau.
Oui, totalement. Alors, on a parlé des différents impacts tout à l'heure. C'est peut-être qu'on peut aussi évoquer les impacts sur la santé mentale, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais il y a aussi des études qui viennent montrer que une corrélation entre l'âge de l'accès au smartphone et les troubles de la santé mentale chez les adolescents, c'est évident. Et nous, c'est aussi ce qu'on constate sur le terrain. C'est ça sur quoi je veux insister, c'est que avec notre association, on rencontre entre 4 et 5 000 jeunes par an, et on voit très bien en fait ces effets. Les effets du cyberharcèlement, les effets sur l'estime de soi de tous ces adolescents qui voient la vie à travers les écrans et qui commencent à virtualiser leurs relations. On a un vrai problème de santé publique.
Et pour revenir au cerveau, si vous avez écouté France Inter ce matin à 8h20, il y avait Grégoire Borst, qui est présenté comme professeur de psychologie et neurosciences, donc sur France Inter, qui disait précisément ça, impossible que l'exposition des enfants aux écrans soit à l'origine de troubles neurodéveloppementaux. Qui croire ?
Oui, alors écoutez, moi, j'ai pas de titre scientifique. Comme sur beaucoup de sujets comme cela, on doit se référer à des tiers de confiance. Moi, je fais confiance à quelqu'un comme Michel Desmurget. Je fais confiance à énormément aux milliers d'études qui sont publiées par des chercheurs indépendants.
Pourquoi pas Grégoire Borst, qui est professeur de neurosciences ?
Bah, écoutez, j'ai un petit peu du mal à lui faire confiance, puisque ce qu'il dit va totalement à l'inverse de ce qu'on constate nous sur le terrain, de ce qu'à peu près tout le monde constate à l'œil nu autour de soi. Et je me permets de rappeler qu'il y a énormément d'intérêts économiques derrière le développement de l'industrie numérique et que pour beaucoup de problèmes industriels avant, on a assisté aux mêmes arguments dans le débat public. Il n'y a pas de causalité, il n'y a que des corrélations. On a entendu ça avec le tabac, on a entendu ça avec le pétrole sur le réchauffement climatique. On entend ça systématiquement dès qu'il y a un problème posé par une industrie. Et donc là, en l'occurrence, sur M. Borst, je ne le connais pas, je ne sais pas, mais je dis juste qu'on entend beaucoup, effectivement, dans le débat public, des arguments qui viennent semer le doute, qui viennent relativiser la réalité des impacts. Et moi, je crois qu'on devrait, de toute manière, appliquer le principe de précaution quand on a énormément d'indices et de preuves qu'il y a un problème et qu'il y a de très, très fortes corrélations.
Il faudra qu'on organise un débat entre neuroscientifiques pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur cette question. Françoise Berthoud, comment on fait prendre conscience de l'impact du numérique sur l'environnement, ce qui vous concerne, pour essayer d'avancer un peu sur cette piste-là et puis essayer d'effacer quelques effets délétères de ces techniques, technologies.
Oui, alors ça, c'est un gros challenge parce que la question du numérique, c'est une question en multicouche avec beaucoup de niveaux d'interdépendance et ce qui se passe souvent, c'est quand on essaye de sensibiliser à une question, donc on va avoir un temps donné, donc typiquement cette émission, donc on va être capable, ou quand même on a un temps suffisamment long, donc je vais être capable d'expliquer les impacts sur l'environnement, par exemple, les conditions sociales, les droits de l'homme, etc.
Donc ça passe par l'information.
Donc ça va passer par l'information. Ce qui me paraît important, c'est que ça passe aussi par du contact en présentiel, avec en essayant de toucher un petit peu la sphère émotionnelle. Donc ça, c'est un point très important pour moi pour amener un début de transformation. Mais la difficulté à laquelle je me heurte très souvent, et la plupart des gens qui font de la sensibilisation se heurtent à ça, c'est que très vite, on va nous demander « Ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et donc là, on risque assez vite de tomber dans des propositions de gestes, de bonnes pratiques, qui relève de bonnes pratiques individuelles. Vous voyez, par exemple, une des bonnes pratiques qui va arriver très vite, c'est, eh bien, si vous voulez réduire l'impact lié à l'extraction des métaux, eh bien, évidemment, il faut garder vos équipements beaucoup plus longtemps.
Ouais, donc, il ne faut pas les changer dès qu'il y a un nouvel iPhone qui sort, par exemple.
Exactement.
Quoi,
ouais. Donc, garder vos équipements deux fois plus longtemps. Ou 5 ans, 6 ans, 8 ans, etc. On va vous dire, pour générer moins de données, eh bien, regardez des vidéos en une qualité moindre, ou regardez moins de vidéos, etc. Ou on va vous dire, achetez moins d'équipements, etc. Mais le souci avec ces bonnes pratiques, qui sont nécessaires, parce que quand les individus mettent en place des bonnes pratiques, eh ben, ils jouent quand même un rôle auprès des personnes qui mettent sur le marché des biens, parce que si, mettons, tout le monde se mettait à garder son smartphone 10 ans, eh bien, les fournisseurs d'applications, les fournisseurs d'ordinateurs, les fournisseurs de smartphones, ils seraient obligés de s'adapter à la demande du public.
D'en fabriquer moins, oui.
Voilà. Mais le problème, c'est que ça suffit pas. Et pour expliquer pourquoi ça suffit pas, faut rentrer dans des explications plus complexes, d'expliquer de quelle façon. Alors, Yves-Marie, il a commencé à en parler un peu tout à l'heure au début de l'émission. Mais, comment est-ce que tout est intriqué dans notre société? Comment tout est devenu interdépendant avec ces objets numériques qui sont un peu au centre? Mais qui sont en même temps un produit de cette société qui s'accélère.
Mais donc ça passerait par la réglementation. Vous dites que ça suffirait pas là, tous ces, ce qu'on va dire, de petits gestes. Donc il faudrait quoi?
Même la réglementation, ça suffit pas.
Alors
il en faut de la réglementation. Et ben moi, ce que je pense et ce que j'encourage maintenant, c'est que les gens ils discutent ensemble, qu'ils se mettent ensemble, donc ils lâchent leur smartphone, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se réunissent dans des territoires, dans des entreprises, dans leurs associations. Pour réfléchir ensemble, là, c'est quoi vraiment nos besoins en termes de numérique et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour demander, par exemple, la dénumérisation dans certains secteurs? Par exemple, on pourrait imaginer qu'à l'échelle d'un territoire, les habitants demandent là que, je sais pas, l'école maternelle, pour reprendre le sujet de la santé, ne soit pas numérisée. On pourrait avoir des actions de ce type-là. Qui, à mon sens, vont plus loin, permettent d'amorcer un changement dans la société.
Yves-Marie, on voit bien qu'à l'école, on est complètement à l'inverse de ce que souhaiterait en tout cas Françoise Berthoux, puisqu'on préconise au contraire l'entrée du numérique massivement, avec beaucoup d'encouragement.
Tout à fait, là on met le doigt sur un point très important, et puis vous disiez tout à l'heure, on ne pourra pas revenir en arrière. Moi je vous invite à regarder l'exemple de la Suède, l'exemple du Danemark ou de la Norvège, donc des pays scandinaves, qui précisément reviennent en arrière sur la numérisation de l'école, parce qu'ils ont constaté des impacts très négatifs sur l'éducation, et remettent des livres et des cahiers de l'attention humaine, ce dont on a besoin pour apprendre. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a la distribution de tablettes en maternelle nous paraît une aberration complète, et c'est quelque chose dont on peut demander l'intervention.
Vous réfléchissez à cette question de la déconnexion, mais comment concrètement ça se passe? Alors, est-ce qu'il faut interdire vraiment les téléphones, comme dans cet exemple qu'on avait tout à l'heure avec une école en Angleterre? Qu'est-ce que vous préconisez, vous, à Lève les yeux?
Alors, plein de choses. Effectivement, il y a aussi la sphère individuelle qui, pour moi, est importante. Déjà, on peut aussi, par exemple, arrêter le smartphone. On le dit peu, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Et
vous n'en avez plus du tout?
Moi, j'ai arrêté le smartphone. J'ai mon vieux smartphone qui prenait photos de billets de train, qui peut me permettre d'écouter des podcasts, point barre. Il n'a aucune autre application dessus, il n'a aucune forme addictive, il est en train de devenir obsolète, j'ai que mon petit téléphone à touche pour le quotidien. Je connais plein de gens qui font ça.
Et la vie est simple avec simplement un téléphone comme ça ou pas?
Alors la vie est plus agréable, plus joyeuse, j'ai des relations de meilleure qualité, je dors mieux, donc je ne regrette pas une demi-seconde.
Vous mettez votre banquier par exemple?
Mais alors mon banquier pour valider les paiements ça marche très bien, c'est du texto. Par contre effectivement, voilà, pour prendre le train, je suis obligé d'avoir des photos de billets de train. Il y a cette société qui pousse, il faut être en résistance. Plus on sera nombreux sur smartphone, plus ce sera compliqué de tout numériser. Donc là, les gestes individuels peuvent compter.
Mais un écueil, par exemple, vous parliez beaucoup depuis le début, tous les deux avec Françoise Berthoux, d'informer la pédagogie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux en particulier, alors ils ont un côté très pire, mais ils ont aussi des bons côtés. Les médias, si on prend même France Inter, on a des réseaux sociaux, on fait de la radio tout numérique de plus en plus, on a des messages là-dessus d'ailleurs, Annie nous écrit, comment vous allez faire? Comment on fait pour s'informer aujourd'hui quand la majorité de l'information, quels que soient les âges, passe par le numérique?
Là, pareil, vous mettez le doigt sur le fait que la société, il y a une poussée vers la numérisation, donc les médias sont obligés de suivre, en quelque sorte. Si un média se retire du numérique, il prend le risque de disparaître. Mais c'est dans cet interstice qu'il faut jouer. Il faut, à mon avis, par exemple, typiquement, je pense que les journalistes aujourd'hui devraient quitter Twitter. Certains le font, certains décideurs politiques le font.
Instagram, TikTok, tout ça, c'est aussi pour toucher des cibles de personnes plus jeunes qui peuvent être informées. Encore une fois, il y a du pire, mais il y a aussi du bon. Et qui peuvent avoir quelques informations à travers ça qu'elles n'auraient pas. Les enfants ne lisent pas les journaux, les ados ne regardent pas forcément le journal.
Je pense qu'il faut pas renoncer. Typiquement, si on, à l'école, on leur dit tout se passe sur le numérique, faites tout sur vos écrans, forcément, ils liront jamais le journal. Mais je veux dire, il faut qu'on porte un projet éducatif de reconquête de l'attention et de réduction de la place des réseaux sociaux qui, au total, je suis désolé, mais je pense que l'impact global des réseaux sociaux sur la démocratie est largement négatif.
Et alors, Françoise Berthoux, par exemple, sur les subventions des collectivités pour l'équipement numérique dans les écoles, vous dites, vous, il faut carrément arrêter ça?
En tout cas, moi je trouve ça complètement aberrant aujourd'hui que l'État propose des subventions pour numériser ou apporter des équipements numériques dans les écoles maternelles pour des enfants qui ont moins de 6 ans, oui, je pense que ça, faut arrêter. En primaire, ça se discute, mais certains seraient d'accord pour dire que même en primaire, c'est pas une nécessité. Mmh. Que ce qui est une nécessité, c'est de réapprendre aux enfants. Parce que, vous voyez, on peut se poser la question, mais pourquoi il y a une nécessité d'apprendre le numérique aux enfants à l'école primaire et pas leur apprendre, je sais pas, à cultiver des choses dans un jardin ou à observer les insectes.
Mais les deux peuvent être faits, en fait. C'est pas incompatible.
Les deux peuvent être faits.
Ils sont
sauf
faits,
que,
d'ailleurs.
Oui, enfin, dans une certaines proportion.
Quand même.
Oui. Les deux sont faits, mais aujourd'hui, on passe quand même beaucoup de temps sur le numérique à l'école. Et puis, non seulement à l'école, on passe du temps sur le numérique, mais comme les devoirs, parce que maintenant, c'est ça qui arrive aussi dans les écoles primaires, c'est que les devoirs, ils sont dans le système numérique. Donc, quand les enfants arrivent à la maison, eh bien, ils doivent regarder l'ordinateur ou le smartphone ou que sais-je pour avoir accès à leurs devoirs. Vous voyez, c'est dans cette direction qu'on va. Donc, en fait, ça poursuit tous les enfants, les parents, les familles, etc.
Allez, on passe aux questions parce qu'il y en a beaucoup.
Il y a des questions, alors désolé, je vais citer une marque, mais il y a pas mal de questions dessus par rapport à l'impact écologique. Il y a le Fairphone qui revient régulièrement. Sébastien ou Amanda nous demandent si vraiment ce smartphone est aussi écologique qu'il prétend l'être. Est-ce que vous avez des informations, Yves-Marie ?
Qu'est-ce que c'est le Fairphone ?
Le Fairphone, peut-être que François saura mieux, mais je pense que c'est un...
C'est
est fait dans des conditions plus éthiques.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Après, je pense pas qu'il soit sans impact écologique.
Françoise Berthoud, c'est du neuf ou justement c'est reconditionné?
Non, le Fairphone, il est neuf, mais il est éco-conçu de façon à être réparable, de façon à durer plus longtemps. Et surtout, une partie des métaux qui composent le Fairphone, dont le fameux tantal et puis un certain nombre d'autres métaux, ils sont extraits dans des conditions éthiquement...
Socialement, bien. Éthiquement, oui.
Voilà.
Donc, d'accord, ok.
Donc, c'est moins pire.
C'est moins pire, voilà, on va le dire comme ça.
Oui, c'est moins pire. c'est le moins pire du monde. Hein.
Marie-Claude voudrait savoir s'il y a des conséquences sur l'optique également. Elle dit, je pense, bel avenir pour les ophtalmos et les opticiens, Yves-Marie.
Oui, les impacts sur la vue et l'augmentation de la myopie sont avérés aussi.
C'est une épidémie mondiale, hein, la myopie, aujourd'hui. Hein.
Bah, c'est très clair. C'est le champ de vision. On a besoin de voir loin. Donc déjà, le fait de vivre en ville, ça a augmenté la myopie puisque on a moins d'horizon, mais avec les écrans, on a encore plus réduit notre champ de vision.
Qu'est-ce que vous recommandez, vous, à l'association, justement, sur les différents âges pour les enfants, justement, à partir de quand on peut commencer à avoir un portable?
Alors, le smartphone, nous, on ne dit pas avant 15 ans. Parce que le smartphone, ça implique accéder à Internet seul. Et donc, de la même manière que le Parlement a décidé la majorité numérique à 15 ans, on est d'accord avec ça. On pense que...
Le lycée.
Donc, en gros, l'arrivée au lycée. Et on dit pas d'écran avant 5 ans. C'est aussi une recommandation de Michel Desmurget. C'est la plasticité. Le cerveau de l'enfant en bas âge est très, très perméable à l'influence des écrans. Il n'y a aucun impact positif avéré. Donc, rien avant 5 ans, si possible.
Et rien avant 5 ans, quand vous dites c'est pas donné d'écran. Mais alors, question sur aussi l'impact des adultes qui sont tout le temps, eux, sur leur téléphone. Et donc, les enfants, même si c'est des bébés, voient ça. Ça, faut essayer de pas le faire aussi.
Très important. Ça s'appelle la technoférence. Je comprends que vous aviez une émission là-dessus. Après, les parents, bien sûr, doivent montrer l'exemple. C'est pour ça qu'on est sur un problème sociétal de fond et qu'il faut une prise de conscience à la hauteur du problème.
Françoise Berthoud, vos recommandations peut-être de votre côté ?
Oui, je voulais juste, par rapport à cette question des parents, ça pose pas seulement un problème de technoférence, mais ça pose un problème de trouble de l'attachement, parce que le parent... qui passe son temps devant son smartphone, et ben pendant ce temps-là, il n'est pas en train de créer un lien avec l'enfant, le bébé, etc. Donc c'est assez grave, en fait, comme problème.
Agnès nous écrit, question qui la hante, elle qui prend beaucoup les transports en commun, quand elle est entourée de gens qui sont sur leur smartphone, alors elle pose la question des ondes, mais même, comment on fait, Yves-Marie? C'est vrai que dans le métro, dans le bus, les gens sont... Et si on veut pas regarder, en gros, d'écran, si on veut entre les publicités aussi numériques dehors et tout, on fait quoi? On ferme les yeux, en fait?
C'est très difficile. Hein. Moi, j'ai quitté Paris pour venir à Marseille, et c'est vrai, quand je reprends le métro trop ici, je trouve ça...
À Marseille aussi, regarde les écrans quand même.
Oui, il y a aussi des écrans numériques.
Ah non, bien sûr. Mais je prends moins le métro.
Parce qu'à
Marseille, je suis à vélo et ici, je ne l'ai pas, donc je suis dans le métro. Et donc, je redécouvre, j'ai passé beaucoup de temps.
Oui, mais il y a des écrans partout dans la rue, au-delà.
Totalement. Donc,
comment on fait?
On fait comme on peut, je veux dire. Et surtout, on demande aux élus, parce que les élus municipaux ont du pouvoir, ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que les collectivités locales peuvent faire beaucoup. Il y a la commune de Seine-Port en Seine-et-Marne qui a fait passer un référendum pour limiter les smartphones dans l'espace public. Les communes peuvent réduire la place des écrans et en particulier des publicités sur écran. C'était une demande de la Convention citoyenne pour le climat. Donc on peut agir aussi à ce niveau-là.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Françoise Berthoud, en duplex de Grenoble. Merci aux équipes de France Bleu Isère. Yves-Marie, je renvoie sur ce livre numérique. On arrête tout et on réfléchit. C'est rue de l'Échiquier. Et puis pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur votre association, lève les yeux. Toutes les infos sont sur le site de la Terre au Carré. Prochain rendez-vous smartphone tout à l'heure. Zoom Zoom Zen avec Mathieu Noël, Technoférence justement avec Marie Danet, psychologue clinicienne et maîtresse de conférences à Lille. C'est à 16h tout à l'heure.